Vous écoutez, on lit pour vous.
Même sur ordonnance, les opioïdes peuvent s'avérer mortels. Un texte de Jessica Nadeau paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir. Au moins 13 personnes sont décédées de polyintoxication ou de complications liées à la prise d'opioïdes sur ordonnance entre janvier 2022 et avril 2023, a pu constater Le Devoir en étudiant les dossiers du coroner. Un soir de juin, Nathalie, 47 ans, regardait un film chez son voisin. Un peu après minuit, elle est sortie pour fumer une cigarette, mais n'est jamais rentrée. C'est là, sur une chaise du balcon, que son voisin l'a trouvée inanimée quelques minutes plus tard. Elle venait visiblement de faire une surdose. Dans son rapport, le coroner indique que Nathalie, dont Le Devoir a choisi de taire le nom complet par respect pour sa famille, souffrait de douleurs chroniques et de dépression. Elle prenait des antidépresseurs ainsi que du fentanyl d'ordonnance sous forme de timbre cutané. Les analyses toxicologiques réalisées à la suite de son décès ont permis de détecter dans le sang de Nathalie la présence de deux antidépresseurs à des doses thérapeutiques et de fentanyl en concentration toxique. Le fentanyl est un analgésique opioïde, narcotique, qui est utilisé pour soigner la douleur chronique, explique la coroner Nathalie Lefebvre dans son rapport. Cependant, il peut créer une dépendance s'il est utilisé de façon prolongée. Ainsi, il arrive souvent que l'organisme devienne habitué et qu'une plus forte dose soit nécessaire pour soulager la douleur. Sachant que Nathalie souffrait de douleurs chroniques, il est possible que la dose prescrite ne fût plus suffisante et qu'elle en ait consommé plus, ce qui expliquerait la présence en concentration toxique dans son sang. La coroner estime que le fentanyl a probablement eu une interaction médicamenteuse avec les antidépresseurs. Plusieurs dépresseurs du système nerveux central présents simultanément, même en concentration thérapeutique dans l'organisme, verront leurs effets s'additionner, ce qui peut mener au décès, explique la coroner, qui conclut que Nathalie s'est intoxiquée involontairement aux médicaments. Des comprimés injectés plutôt qu'avalés. Manon, elle, avait une panoplie de prescriptions, dont une pour de l'hydromorphone, un opioïde mieux connu sous son nom commercial de Dilodide. L'examen du coroner a permis de découvrir la présence de multiples sites d'injection sur son corps. Manon s'injectait des médicaments par voie intraveineuse depuis plusieurs années, ce qui était connu de ses proches, écrit la coroner Sophie Reynière. Il est à noter que les médicaments qui lui étaient prescrits se présentaient essentiellement sous forme de comprimés. Aucun ne devait être administré par voie intraveineuse. Cette situation ne semblait pas être connue de son médecin de famille, car il n'existe aucune mention quant à un tel mode d'administration dans son dossier. Les analyses toxicologiques ont également permis de trouver de la méthadone et du diazépam, lesquels n'étaient pas prescrits. Dans ce contexte, il est donc probable que le décès de Manon soit attribuable à une embolie pulmonaire, qui est une complication que l'on retrouve chez les personnes qui se font des injections, conclut la coroner. Daniel, 55 ans, avait lui aussi une quantité impressionnante de médicaments d'ordonnance et d'autres substances non prescrites dans le sang lorsque son corps a été retrouvé agenouillé près de son lit en juin 2022. L'homme, invalide à la suite d'un accident de travail, prenait notamment de l'hydromorphone pour soulager une lombalgie chronique. Selon le médecin de famille, plusieurs tentatives de diminution des doses d'hydromorphone avaient été tentées. En vain, écrit la coroner Marie Pinault. Dans le but de diminuer les doses, un médicament non-opioïde pour douleurs chroniques avait été introduit. Il n'a pas été retrouvé dans les analyses toxicologiques. Le coroner conclut que Daniel est probablement décédé d'une polyintoxication aux drogues sur ordonnance et d'abus, mais une insuffisance myocardique aiguë pourrait possiblement avoir causé le décès. Donald, 56 ans, prenait plus que la dose suggérée et les policiers ont trouvé 4 pots de Dilodide vides alors qu'il aurait dû en rester. D'autres, enfin comme Bernard, 67 ans, sont décédés d'une intoxication médicamenteuse après avoir vraisemblablement pris leur dose correctement. Ces décès ont été comptabilisés dans le cadre d'une analyse approfondie des morts par surdose, effectuée dans le cadre d'une enquête du Devoir qui démontrait que la crise des surdoses n'est pas liée uniquement à la prise d'opioïdes, mais au mélange de plusieurs drogues, dont les stimulants et les benzodiazépines. C'était, même sur ordonnance, « Les opioïdes peuvent s'avérer mortels », un texte de Jessica Nadeau paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir.
De bonnes habitudes peuvent prolonger l'espérance de vie de 5 ans. Un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2024 dans La Presse. On dit souvent qu'avoir de bonnes habitudes fait vivre plus longtemps. Une étude britannique vient de confirmer cette intuition en déterminant que de bonnes habitudes peuvent prolonger l'espérance de vie de 5 ans par rapport à de mauvaises. 5 années, grâce à des habitudes simples. Les 350 000 Britanniques, suivis pendant 15 ans à partir de la quarantaine, ont été répartis en 3 groupes. Ceux qui avaient de bonnes ou de mauvaises habitudes de vie et un groupe intermédiaire. De bonnes habitudes de vie diminuaient de 60 % le risque de mortalité précoce, ajoutant jusqu'à 5 ans d'espérance de vie par rapport à des gens qui avaient de mauvaises habitudes de vie. Bonne nouvelle, les bonnes habitudes de vie étudiées ne sont pas très ambitieuses. Par exemple, il suffit de ne jamais avoir fumé, de marcher rapidement au moins 20 minutes par jour, de dormir entre 7 et 8 heures par nuit, et d'avoir un IMC inférieur à 30, la limite de l'obésité commence à 27, pour être dans cette catégorie. Ainsi, pas besoin de s'astreindre à une stricte hygiène de vie pour bénéficier d'une meilleure espérance de vie, gare à son alimentation et à sa consommation d'alcool. Les deux autres catégories d'habitudes de vie à surveiller sont la consommation d'alcool et l'alimentation. Il faut boire moins de 14 portions d'alcool par semaine pour un homme et moins de 7 pour une femme, ce qui correspond aux anciennes recommandations canadiennes. Pour ce qui est de l'alimentation, de bonnes habitudes de vie sont plus difficiles à atteindre. C'est la bonne habitude étudiée la moins répandue chez les Britanniques, seulement une personne sur 5 y arrivant. Est-il normal qu'il soit si facile d'avoir un bon score aux habitudes de vie? Beaucoup de gens ont de très mauvaises habitudes, dit Jean-Pierre Després, une sommité du domaine à l'Université Laval qui vient de publier le livre « La révolution active ». La catégorie des mauvaises habitudes regroupait ceux qui n'avaient aucune ou une seule des 6 bonnes habitudes de vie dans l'étude, publiée dans la revue BMJ-EBM par des chercheurs chinois. Des limites. M. Després est cependant critique de l'approche de cette étude, la première qui lie des habitudes de vie à la longévité. On a retenu les comportements déclarés des gens, dit-il. On sait par exemple que les gens sous-estiment leur consommation d'alcool et surestiment leur exercice physique. Selon Martin Junot, de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est un problème courant dans les études sur l'impact des habitudes de vie sur la santé. On veut avoir plus de participants, on utilise des suivis plus faciles. Cela pourrait par ailleurs signifier que les bienfaits de l'exercice physique sont sous-estimés. La moitié des Québécois rapporte faire plus de 150 minutes d'exercice modéré par semaine, dit le docteur Junot. On pense que c'est plutôt 20 %. Ça veut peut-être dire que les bienfaits de l'exercice commencent encore plus tôt qu'on pense. Le poids ou le tour de taille. Une autre critique de M. Després, qui a présidé le Conseil sur le style de vie et le métabolisme de l'Association américaine du cœur, AHA, est l'utilisation de l'indice de masse corporelle, IMC, le poids divisé par la taille au carré. On devrait plutôt utiliser le tour de taille ou le gras abdominal. Le docteur Junot pense que l'IMC, même s'il s'agit d'une mesure moins précise du poids santé, a sa place dans ce type d'étude. Je pense que les auteurs ont mis la limite d'IMC à 30 plutôt qu'à 27 pour éviter ce problème. Une personne musclée peut avoir un IMC de 27, mais plus rarement de plus de 30. Moins du tiers des participants avaient un IMC inférieur à 30, ce qui faisait de cette habitude de vie la moins fréquente après l'alimentation. Plus de la moitié des participants n'avaient jamais fumé, faisaient assez d'exercice, dormaient assez et buvaient modérément. Le palmarès des habitudes. Sans surprise, le tabagisme était l'habitude de vie la plus néfaste de celles étudiées. Mais dans le palmarès des mauvaises habitudes, elle était suivie de près par l'alimentation et l'exercice, puis par le sommeil et l'alcool. Un IMC inférieur à 30 n'apportait presque rien à l'espérance de vie. Ça montre bien que, chez les non-fumeurs, l'alimentation et l'exercice sont les cibles prioritaires bien avant l'alcool, dit le docteur Junot. Pourquoi dormir trop fait-il partie des mauvaises habitudes de vie? Souvent, les gens qui dorment trop ont des problèmes de santé, dit M. Després. Cela étant dit, il y a des athlètes qui dorment énormément. C'était « De bonnes habitudes peuvent prolonger l'espérance de vie de 5 ans », un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2024 dans La Presse.
Les libraires craquent. Essais, récits et cuisine, une sélection de 12 titres des libraires indépendants, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires. 1. Histoire de mon corps bref. Billy Ray Belcourt, traduction Ariane Desrochers et Olivia Tapiero, triptyque 186 pages, $25.95. Billy Ray Belcourt, originaire de la nation Cree Drift Pile, est assurément un auteur à part. À part puisque sa radicalité, son audace et son inventivité littéraire sont arrimées à son propos. Savoir se réinventer en tant qu'autochtone et personne queer, en dehors de la violence des normes identitaires et sexuelles, et surtout en dehors de la brutalité de l'héritage colonial. Son nouveau livre, traduit en français, épouse d'abord la forme autobiographique, mais emprunte aussi les codes de la poésie et de l'essai, avec une originalité qui lui est propre. En son centre, on y retrouve les thèmes de l'intimité, de l'identité, du racisme et de la colonisation dans toute leur complexité. Lire Belcourt, et particulièrement ce livre, c'est accepter de ressentir la douleur en même temps que la joie. C'est aussi un cri de ralliement pour un avenir plus doux et bienveillant. Isabelle Dion, librairie Anénorak, Wendake. 2. Lettres attachées, textes et réflexions, David Goudreau, Libre Expression, 104 pages, $22.95. Dans ce recueil de textes, David Goudreau n'a pas peur de se commettre en traitant de sujets variés tels que la maladie mentale, l'alcoolisme et la solitude de nos aînés. Il utilise un langage cru, franc, honnête et sans compromis. Il emploie des mots percutants, mais ô combien éloquents. Mais aussi et surtout, il nous touche, nous émeut et nous atteint droit au cœur. Dans un cas comme dans l'autre, il suscite en nous une certaine réflexion. Voici donc 15 textes que l'auteur a livrés à l'émission Bonsoir, bonsoir. Vous aurez donc le plaisir de les retrouver ou le privilège de les découvrir dans ce livre que je considère comme un bijou de la littérature québécoise. Isabelle Rivet, librairie Lulu, Mascouche. 3. Porter plainte. Léa Clermont-Dion, Le cheval doux, 224 pages, $25.95. Dans ce livre, Léa Clermont-Dion se tourne vers la littérature pour faire le récit du processus judiciaire dans lequel elle s'est engagée en 2017 et qui a trouvé son dénouement en 2021. À 17 ans, la jeune femme est agressée sexuellement par son patron et mentor de l'époque. Des années plus tard, le mouvement #MeToo et la volonté de se départir de la honte la convainquent de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour aboutir à une plainte officielle plus tard. Après des années à devoir mesurer chacun de ses mots afin qu'aucun d'entre eux ne se retourne contre elle dans les médias, l'autrice fait enfin son histoire sienne, dans ses propres mots, dans ses bas et dans ses hauts. L'écriture de l'autrice, sa sensibilité aiguisée et le choix judicieux des événements racontés participent à transformer le ressentiment des victimes en quelque chose comme de l'espoir. Isabelle Dion, librairie Anénorak, Wendake. 4. Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités, Camille Aumont-Carnel, Le Robert, 397 pages, $34.95. La collection « Dire, c'est agir » des éditions Le Robert donne la parole à ceux et celles qui bousculent les idées reçues et offre un nouveau sens à la langue. Rien n'est plus vrai que dans ce premier titre consacré à la sexualité. Camille Aumont-Carnel choisit de traiter le sujet avec joie et humour, de décomplexer le vocabulaire, de bien nommer les choses telles qu'elles sont et surtout de réfléchir aux biais que ces mots induisent. Parce que les mots ont un poids, une portée, et qu'ils véhiculent bien plus que quelques lettres. Parce que, même banalisés, ils agissent sur l'inconscient. Un livre à proposer à tous, aux jeunes comme aux aînés, afin d'ouvrir la discussion, de faire éclater les tabous et les non-dits dans l'espoir de mieux se comprendre. Chantal Fontaine, Librairie Moderne, Saint-Jean-sur-Richelieu. 5. Au Square Gardette, Robert Racine, Boréal, 312 pages, $32.95. Robert Racine propose la biographie de son amitié avec le compositeur Claude Vivier, assassiné en 1983 par Pascal Dolzan, un homme de 20 ans qu'il avait ramené à son appartement du Square Gardette. Claude Vivier, doté d'un patronyme doublement vivant, a influencé le parcours de Robert Racine bien avant leur première rencontre en personne en 1978. L'auteur se questionne sur les liens entre la créativité et le meurtre, allant jusqu'à écrire qu'une seule lettre différencie les mots « création » et « crémation », ce qui fait frissonner. Il se lance à la recherche du meurtrier, un être insaisissable qui a plus de points en commun avec Claude Vivier qu'on pourrait le croire. Une lecture troublante, documentée, impossible à mettre de côté, qui met en valeur les œuvres de Racine et de Vivier. Julie Collin, Librairie Pantoute, Québec. 6. Chambre forte, collectif sous la direction de Valérie Forgue, Hamac, 168 pages. $24.95. 11 auteurices écrivent sur leur rapport à l'œuvre et au thème développé dans l'essai « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, dont la version originale est parue en 1929. Près de 100 ans plus tard, force est de constater que tous et toutes n'ont pas accès à un lieu pour écrire et à de l'argent pour pourvoir à leurs besoins physiologiques et psychologiques. Les textes prennent des formes variées, parfois loin des œuvres publiées antérieurement par ses auteurices, allant de l'essai à la poésie, les plus surprenants étant les adresses à Virginia Woolf. Les thèmes de la confiance, du silence et du temps sont récurrents. Impossible de lire ces textes et de ne pas ressentir une irrésistible envie de créer et de posséder un lieu à l'épreuve des éléments. Julien Collin, Librairie Pantoute, Québec. Vous écoutez Les libraires craquent, essais, récits et cuisine, une sélection de 12 titres des libraires indépendants, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires. 7. Errance, collectif sous la direction de Suzanne Cloutier, du passage, 172 pages, $34.95. Errance est à la fois un livre d'art et de poésie où les auteurices illustrent de mystérieuses images. Le tout est précédé d'une savante introduction de l'artiste expliquant l'histoire de ce langage pictographique propre aux oubliés, aux effacés. Suzanne Cloutier a voulu mettre en avant des signes qui apparaissent sur les murs des villes. Ces symboles sont des messages que se laissent entre eux les nomades et itinérants pour indiquer un endroit dangereux, un voisinage agressif ou bien à l'inverse, où ils peuvent espérer trouver un bon accueil, une soupe chaude, un endroit où dormir sans danger. Une humanité des interstices se dessine dans ces signes. C'est beau et émouvant. Quentin Boilut, librairie La Maison des Feuilles, Montréal. 8. La mémoire délavée. Natacha Apana, Mercure de France, 148 pages, $34.95. L'autrice de Tropique de la violence, roman qui lui a valu pas moins de 13 prix littéraires en 2016, consacre son plus récent ouvrage à sa famille. En s'éloignant de la fiction, Natacha Apana révèle des pans de l'histoire familiale marqués par la migration de ses ancêtres. Originaire d'Inde, son trisaïeul est débarqué à l'île Maurice avec des centaines d'autres coulis. Ses salariés venus prendre la relève des esclaves sur les plantations de l'île au 19e siècle. Ce déracinement teintera la vie des descendants en leur inculquant traditions, croyances et superstitions. Bien sûr, on lit La mémoire délavée pour en apprendre plus sur l'île Maurice et pour découvrir les attendrissants ancêtres de l'autrice. Mais c'est grâce à l'écriture pudique et tout en finesse de Natacha Apana que l'on savoure ce récit. Audrey Martel, Librairie L'Excèdre, Trois-Rivières. 9. Pasta Party, collectif Marabout, 192 pages, $8.95. J'ai offert ce livre sans prétention à un vieux garçon de ma connaissance, reconnu pour manger principalement du tout fait. À ma grande surprise, il s'est mis à cuisiner du jour au lendemain. Il a apprécié la simplicité des recettes, qui ne comptent jamais plus de 6 ingrédients, pâtes incluses, et les photographies de chacun des ingrédients, parfaites pour être certain d'acheter la bonne chose. Après quelques recettes, il a saisi le principe et a commencé à développer ses propres plats, dont un macaroni au moule, pesto et mozzarella qui le rend assez fier. À acheter si vous connaissez quelqu'un qui aime bien manger, mais qui n'a pas envie de faire toutes les allées de l'épicerie 3 fois pour un seul repas. Lino Tremblay, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. 10. Le mari de nuit, expérience du deuil et pratique funéraire, Jennifer Kerner, Gallimard, 218 pages, $37.95. C'est le genre de livre que j'affectionne. C'est très personnel, tout en ayant un côté documentaire riche et passionnant. C'est peut-être une catharsis pour l'auteur, car Jennifer Kerner s'adresse régulièrement à celui qu'elle a aimé à l'âge de 18 ans, mais qui a perdu la vie de façon précoce et dramatique. C'est toutefois cette épreuve qui fera d'elle une spécialiste de la mort et du deuil dans l'histoire humaine. Elle nous amène avec elle un peu partout autour du monde afin d'assister à différentes pratiques funéraires plus ou moins étranges, nous offrant ainsi une réflexion sur le rapport au deuil en Occident. Il fallait pas mal de courage pour témoigner d'une épreuve si personnelle et j'espère que ça lui aura permis de faire la paix avec cette perte. Shannon Desbiens, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. 11. La Méditerranée et l'Atlantique, Nicolas Faeli, Pull, 260 pages, 35 $. La colonisation de l'Amérique a été le sujet de nombreux livres. Par contre, très peu sont ceux qui, comme le fait avec Maestria Nicolas Faeli, abordent la question de la colonisation européenne sous l'angle de la connaissance et de l'utilisation des sources littéraires de la Grèce antique dans les écrits des penseurs français et anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. Faeli montre que les Anglais poussèrent la réflexion sur le concept de colonie plus loin que leurs homologues français avec, entre autres, la notion du Commonwealth. Cet écrit captivant révèle également comment, au XVIIIe siècle, les auteurs grecs anciens comme Thucydide et Platon s'immiscèrent, bien involontairement, dans les affaires politiques du plus grand empire et dans celles de ses 13 colonies bientôt indépendantes. De Mizray à Jefferson, en passant par Hobbes, un parcours unique dans la pensée colonialiste de grands littéraires. Chani Plante, Librairie La Liberté, Québec. 12. Album de famille, La grande histoire de nos ancêtres, Guido Barbujani, traduction Renaud Temperini, Albin Michel, 358 pages, 34 $. Des milliers d'années avant la domination des Homo sapiens sur cette planète, nous partagions le globe avec d'autres hominidés qui ont disparu à différentes époques. Appuyés par le travail de deux reconstitutionnistes, l'auteur nous présente ses lointains cousins, la découverte de leurs ossements et les hypothèses sur leur décès et leur mode de vie. Je serai toujours friand d'en savoir davantage sur ceux qui nous ont précédés et ont plus ou moins défini ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ont-ils disparu avec le temps? À quel point partageons-nous leur patrimoine génétique? À quoi ressemblaient-ils? Ce livre est un voyage passionnant et riche qui nous fournit quelques réponses, mais nous fait poser encore moult questions. Shannon Desbiens, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. C'était Les Libraires craquent, essais, récits et cuisine, une sélection de 12 titres des libraires indépendants, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires.